Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et très heureuse de vous retrouver dans cette émission de Radio Foot International en ce début de semaine avec, eh bien, au menu de nos débats, les derniers réglages pour les favoris de l'Euro, en tout cas trois des favoris qui ont remporté leurs derniers matchs amicaux. Les Pays-Bas, emmenés par un grand Memphis Depay, l'Angleterre, sauvée par Rashford, Marcus Rashford, mais pas forcément rassurante. Et puis la Belgique, elle, rassurée par Romelu Lukaku. Force et faiblesse au crible de Radio Foot. Alors que pour les Bleus, un dernier test se profile face à la Bulgarie. Un dernier match avant d'affronter l'Allemagne à Munich. Le sélectionneur Deschamps va-t-il faire jouer son 11 type en intégrant N'Golo Kanté ? Le PSG champion, ou plutôt les Parisiennes championnes de France. Pour la première fois, l'équipe féminine du club a remporté le championnat français et mis fin au règne des 14 derniers titres remportés par les Lyonnaises. Le début d'une nouvelle ère, ou pas, nous en parlerons, notamment grâce à Salim Bongali. Bonjour Salim.
Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous.
Il a plusieurs cordes à son arc, notre ami de RMC Sport, et pas seulement l'Angleterre, dont il arbore le magnifique maillot. C'est maillot numéro 3 celui-là?
Non, c'est le premier, mais de 1996, l'année où l'Angleterre a fait son meilleur parcours historique à l'Euro.
Chez elle, à domicile. Salim, donc Bongali, vous pouvez pas le voir aujourd'hui, mais je vous conseille eh bien, d'aller le voir sur Twitter, et il nous montre tout ça aussi, les maillots. Bonjour Hervé Penaud.
Bonjour à vous, et puis il me rappelle tellement de souvenirs, 96 euros, je suivais l'Angleterre, Paul Gascoigne, etc. C'était quel bon moment on avait vécu,
quel personnage,
avec une magnifique chanson, hein. Football's Coming Home, ça reste. La chanson Nec plus ultra des euros et des.
Vous avez un bel éléphant sur votre t-shirt.
Ça, oui, c'est l'éléphant de Côte d'Ivoire.
Ouais,
effectivement.
Un peu stylisé, oui, exactement.
Stylisé.
Bonjour, shérif Guémour.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Vous arborez pas les couleurs
bientôt,
orange.
Bientôt.
Hein, mais ça va commencer, on compte sur vous.
Je les sortirai tous à partir de l'euro.
Pour évoquer justement cette orange mécanique, non pas encore peut-être,
pas
mais
encore.
La mécanique est en train de se huiler. David Finzel m'a aidé à préparer l'émission alors que Laurent Salerno est à la réalisation aujourd'hui. Et Radio Foot, c'est parti.
Allez, c'est l'attaquant lyonnais Memphis Depay face à Lorient. Depay, et ça fait 1-0.
Attention, De Jong.
C'est ça.
Avec Depay. Bien fait. Avec Weghorst. Et le voilà. 2-0 pour les Pays-Bas.
Attention, Malen sur le côté droit toujours. Memphis Depay dans la surface de réparation, vous le voyez. Qui récupère le ballon. Quelle occasion encore. Et c'est parfaitement suivi. 3-0 pour cette équipe des Pays-Bas. Are you ready to play the game? Are you ready?
Ils ont retrouvé le chemin des buts. Les hommes en orange ont gagné leur match hier soir contre la Géorgie par 3-0 quelques jours après avoir été tenus en échec par l'Écosse. Et un joueur s'est illustré. Il était partout, presque délivrant en passes décisives et même inscrivant, lui, son pénalty. C'est Memphis Depay. Alors, avant de parler de ce grand Memphis, une équipe qui se cherche encore. On disait orange mécanique ou mécanique en train d'être huilé, cher shérif. Est-ce que c'est une équipe qui se cherche encore, qui s'est déjà trouvée, qui est prête pour son premier match? Ça sera face à l'Ukraine dimanche prochain.
Non, elle se cherche encore. Faut rappeler un peu les deux événements qui se sont passés, à savoir le départ de Koeman l'été dernier, qui est parti au Barça.
Barça, remplacé par Franck De Boer.
Franck De Boer, mais vraiment un petit peu dans la précipitation. Il y avait un petit côté provisoire qui a duré. Ça se passe pas aussi bien qu'avec Koeman. Avec Koeman et le reste de son équipe, il y avait vraiment une synergie qui a disparu un peu. Puis l'autre,
oui, qu'on avait senti sur le terrain, on se souvient.
Ah oui, bien sûr.
Finaliste de la Ligue des Nations.
Oui.
Il y avait un vrai travail.
Oui.
De
en plus,
cette
Koeman, équipe. Koeman, il y avait l'avantage, c'est que lui, il a été entraîneur des trois plus grands clubs néerlandais, c'est-à-dire l'Ajax, le PSV, Feyenoord. Donc il les connaît bien, il connaît un peu l'identité de jeu. Et voilà. Puis le deuxième coup dur, c'est la blessure de Van Dijk, qui sera pas rétabli. Donc à partir de là, Van Dijk n'est plus là, il y a plus la clé de voûte du jeu néerlandais. Alors évidemment, une clé de voûte, c'est une colonne vertébrale, le gardien, le défenseur central et tout. Et en fait, sur les quatre, il en reste plus que deux, il reste Wijnaldum au milieu de terrain, Depay devant, il y a plus Van Dijk, et même s'il est sain, qui est pas un super gardien, mais bon, quand même, c'est un peu, c'est un des tauliers avec, avec l'âge et
tout. C'est ton numéro 1, quoi.
Donc voilà. Et du coup, on était, on a longtemps fonctionné sur un système 4-2-3-1, 4-3-3, enfin, peu importe. Et là, Ronald Koeman, Franck Debourg a tellement peur, c'est que maintenant, il joue à 5 défenseurs derrière. C'est-à-dire, une défense à 3 et 2 gens sur le côté. Il veut vraiment, parce que il y a aussi Delaert qui s'est blessé. On sait même pas s'il va commencer le tournoi. Donc, dans la défense centrale, vraiment, l'assise défensive, elle est pas assurée. Devant, ça peut aller. Ça peut aller.
Oui, parce que quand même, on en connaît pas mal de ces joueurs de l'équipe nationale. Ils sont dans les grands clubs. Alors, on parlait de Delict qui est à la Juve. On pense évidemment aussi à De Jong qui est au Barça et on voyait qu'il trouvait sa place. Alors, sans doute aidé par la présence de Koeman. Mais c'est une équipe qui peut, parce que ces derniers temps, on la voit quand même aller loin dans les compétitions depuis 2010, hein, depuis la finale de la Coupe du Monde où elle est souvent présente.
Il y a deux trous dans le CV quand même. Ouais, ils ont pas fait l'Euro.
C'est irrégulier. Mais c'est irrégulier.
Qualifié ni pour la dernière Euro ni pour la dernière Coupe du Monde, c'est vraiment une équipe qui est en train de se reconstruire.
Mais et c'est vrai qu'elle se reconstruit dans d'autres compétitions. Je pensais à la Ligue des Nations, c'est une nouvelle compétition,
absolument. Et c'est là où on s'était dit justement, il y a peut-être quelque chose, un souffle nouveau dans cette équipe des Pays-Bas. Malheureusement, comme l'a dit Chérif, quand vous n'avez pas Van Dijk déjà, qui est un monstre absolu, vous êtes bien rendu compte ce que ça a fait à Liverpool avec un effectif encore supérieur. Il est évident qu'aujourd'hui, l'équipe des Pays-Bas apparaît pas quand même comme un favori de 7 euros. Et on parle de Memphis Depay, qui est effectivement le joueur numéro 1 de 20, mais qui a des hauts et des bas. C'est-à-dire que Memphis Depay, ça reste un très bon joueur de Lyon, mais tant il n'a pas encore prouvé à haut niveau, dans un grand club, qui était capable de faire la même chose. Alors, en équipe des Pays-Bas, comme il se sent en confiance, on lui laisse une certaine liberté, on a le Memphis Depay de haut niveau qu'on peut connaître.
Oui, justement. Voilà. Alors, Depay, qui apparemment, dans les 48 heures, serait en passe de signer, finalement, comme le suspense ne le faux suspense, en fait, autour de cette signature, autour de son contrat, c'était avec le FC Barcelone, et ça serait pour 3 ans.
Le seul suspense qu'il y avait, c'est Koeman va-t-il rester ou pas?
Oui.
C'est ça. Parce que si Koeman n'était pas là, il était pas.
Exactement. Donc, ça se jouerait. Mais on a l'impression, Chérif, que c'est un joueur qui s'améliore ou qui est toujours, en tout cas, régulier et constant, parce que il y a des choses qu'on lui reprochait à Lyon. Mais quand il est en équipe nationale, on a l'impression qu'il se transcende
avec les Pays-Bas, il est exemplaire. Et c'est justement pour ça que j'ai pas arrêté de lui taper dessus quand il joue avec Lyon. Il choisit ses matchs et tout. Non, avec les Pays-Bas, il est capitaine. Il fait partie des anciens maintenant. Il était là, à la Coupe du Monde.
Deuxième capitaine, peut-être après Wijnaldum.
Oui.
Je l'ai
vu avec le Brassard sur certains matchs, donc il fait partie des. Il s'implique vraiment. C'est une question de racine. Il est un peu plus pacifié. Je lui avais dit ta très bonne enquête par rapport avec son père et tout ça et tout. Il a renoué avec ses racines, aussi bien d'un point de vue familial que de son pays. Donc il y a une grande fierté. Et ce qui n'est pas le cas par moment de pas mal de grands joueurs néerlandais qui étaient carrément, on peut le dire, des mercenaires. C'est pas le cas de Depay.
Là où, en sélection néerlandaise, avant, vous aviez presque trois leaders, j'entends par trois leaders, un par ligne, Van Dijk, Wijnaldum et Depay. Aujourd'hui, vous n'en avez plus que deux puisque le défenseur, donc, s'est blessé. Malgré tout, Depay, aujourd'hui, porte tellement d'espoir. Et puis surtout, il est très bon. On l'a résumé il y a quelques instants à chaque fois avec les Pays-Bas.
Il marque même beaucoup, avec cette équipe. Hier, pas que des pénaltys.
Hier, même si c'était la Géorgie, une Géorgie amoindrie, il a été décisif sur tous les buts, au final, avec un but marqué sur péno, avec une passe D également. Donc ça, c'est une bonne chose. Après, moi, une passe décisive, pardon, vous avez raison. En revanche, moi, mon inquiétude perso, c'est le cas Franck Debourg. Il faut rappeler quand même une chose, c'est qu'il remplace Koeman avec la précipitation évoquée il y a quelques instants. Franck Debourg, son CV en tant qu'entraîneur jusqu'ici, c'est pas transcendant quand même. C'est 10 semaines à l'Inter, c'est à peu près autant à Crystal Palace.
À l'international, attention, il est 4 fois champion avec les Pays-Bas. J'étais très très bien parti.
Avec l'Ajax d'ailleurs. Avec l'Ajax, donc ok. Non, mais après, à côté de ça, 10 semaines donc avec l'Inter, autant avec Palace, 2 ans et il est viré au final d'Atlanta. Enfin, au final, c'est un sélectionneur qui aussi a eu des performances moindres à l'automne avec les Pays-Bas en enchaînant 4 rencontres sans victoire, ce qu'aucun sélectionneur avait fait sur les 20 ou 30 dernières années. Enfin, à un moment donné, Franck Debourg, c'est pas, en tant que sélectionneur, je précise, peut-être pas le très grand nom qui était attendu, en tout cas, avec les performances actuelles.
Les autres grands noms, ils ont signé autre part. Et, l'équipe des Pays-Bas, enfin, je l'ai souvent dit, mais c'est encore valable aujourd'hui, elle a deux visages. Elle a le visage, le meilleur exemple, c'est en Turquie. En Turquie, ils ont joué contre Yilmaz, parce que c'est Yilmaz qui a marqué un triplé.
Le triplé, ouais.
Il y a les deux côtés. Il y a les deux aspects. Il y a l'équipe des Pays-Bas qui est pas là. qui est pas bonne tactiquement, qui ne répond plus, qui se fait marcher dessus 3-0. Et comme dans les tempêtes qui se lèvent au milieu de l'océan, tout d'un coup, ça leur prend, ils se mettent à jouer. Ça peut durer 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, un gros temps fort. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont fait reculer les Turcs. D'un seul coup, ils ont marqué 2 buts, ils sont revenus à 3-2. On s'est dit, ça y est, ils ont raté l'égalisation. Mais quand ça joue, hein. C'est les décalages, c'est les balles dans la boîte, c'est la densité dans la surface, c'est les échanges. On ne comprend plus rien. Et on voit les Turcs qui sont morts de peur. Bon, c'est pas la grande équipe des Pays-Bas, donc ils se sont arrêtés à 3-2. Et ils ont perdu 4-2. Et les Pays-Bas, ça va être un peu ça. Ça va être avec du flottement derrière. On l'a vu encore contre la Géorgie.
C'est dû notamment au choix du sélectionneur, ce genre de flottement.
Non, parce qu'il n'y a pas que ça non plus. C'est-à-dire que c'est un effectif.
Il n'y a pas la base défensive. Il n'y a pas Van Dijk, le patron, qui rassure.
Et puis le niveau individuel des joueurs est quand même inférieur à certaines autres équipes. C'est pas l'équipe de France, c'est pas l'équipe du Portugal, c'est même pas l'équipe d'Angleterre. On en reparlera. Mais je veux dire individuellement. Hein. Et ça me fait sourire, hein, cette histoire de défense à 5, enfin à 3, si on veut. C'est un peu ce qu'avait fait Van Gaal en 2010. C'est-à-dire juste avant la Coupe du Monde, ça allait mal pour les Pays-Bas. Ils étaient en grosse difficulté. Il s'est dit, tiens, je vais changer, je vais mettre une défense à 3. Et puis, hop, ça a fonctionné. Ils sont allés jusqu'en demi-finale. Donc,
t'as vu qu'il y avait devant?
Oui, bien sûr.
C'est une autre trempe que ce qu'on a aujourd'hui.
C'est une autre trempe, absolument.
Ouais. Et juste quand on parle d'individualité, quand on évoque le poste de gardien aussi, Silesen, qui était censé être le numéro 1, qui est pas transcendant, mais quand même, donc blessé, testé positif. Et en l'occurrence, maintenant, c'est soit Krul, soit Stekelenburg. Qui sont pas des foudres de guerre maintenant.
C'est le deuxième choix.
Voilà.
C'est tout ça
qui nous fait dire que les Pays-Bas, ben, s'ils performent, ce sera une surprise, mais s'ils performent pas, ce sera presque normal.
Vous les mettez quand même parmi les favoris?
Non. Bon outsider. Ils peuvent créer la surprise. C'est les Pays-Bas.
En un quart d'heure, ils peuvent créer.
Non, et puis surtout, il faut pas oublier que cet euro, personne ne peut avoir de lisibilité, puisqu'on sait pas exactement dans quel état de forme vont arriver les joueurs. Entre le Covid, les joueurs qui ont joué, qui ont pas eu du tout de vacances. Oui. Si ça se trouve, c'est une équipe comme les Pays-Bas avec des joueurs qui ont joué moins de matchs, sont peut-être plus en forme que d'autres qui seront arrivés rincés.
Il y a un délire qui est incertain. C'est-à-dire qu'a priori, il n'y aura même plus de défense centrale fiable. Donc,
et habituelle, en tout cas.
Après, c'est les Pays-Bas.
Bonne chance.
Je mettrai pas d'argent sur eux quand même.
À ces Pays-Bas, parce que parfois ils nous régalent sur le terrain et c'est vrai qu'on aimerait bien. Et même Fils de Paille, hein, certains disent que ça pourrait être l'homme de cet euro. Eh bien, pourquoi pas.
S'il va loin.
Avec son gros lion dans le dos, n'est-ce pas? Et son maillot orange sur les épaules. Et la Free Lion au maillot blanc, elle, immaculée.
Conception.
Alors, je vous raconte ce qui se passe dans le studio. Salim Bongali se prend déjà la tête entre les mains, de dépit, bien sûr. Alors, sans aucune victoire à ce jour, hein, dans un euro, que va-t-elle faire?
He's done brilliantly. And now he's gone down. Penalty. Kapusha's first act. Simple. A strike from this evening. Skipper gives England the lead. It was a nerveless penalty from Marcus Rashford.
Ils ont gagné, les Anglais, mais un peu à l'arraché. Un seul but face à la Roumanie hier à Wembley. Une enceinte qui leur tend les bras.
Middlesbrough.
Mais
ça jouera à Wembley après.
Tout est fait pour que cette équipe anglaise soit à l'aise, puisque la phase finale de l'Euro se passera en Angleterre. Oui, demi-finale et finale, en poule. Alors en plus.
Voilà, l'Angleterre joue ses 3 matchs de poule à domicile. Si l'Angleterre termine leader de son groupe, jouera son 8e de finale à domicile aussi. Seul le quart potentiellement ne serait pas à domicile. C'est vous dire si l'Angleterre joue à la maison.
Quand on accepte d'organiser, hein, c'est le cas de l'Allemagne aussi qui va jouer ses matchs du côté de Munich. Donc,
les Pays-Bas aussi, je crois qu'ils jouent leurs 3 matchs, il me semble.
Tout à fait, à Amsterdam.
Il y a des nations hautes.
Hein, bien sûr, et il y a beaucoup de nations hautes en l'occurrence. Il y en a,
la Russie joue ses 3 matchs à Saint-Pétersbourg.
Ou 8, etc. Je crois que c'est 8 nations hautes. Pour 11 villes qui organisent la compétition. Victoire donc 1-0. On va entendre l'auteur du but du pénalty, la star en Angleterre. On le connaît bien, Marcus Rashford.
Ce match était très difficile. Nous avons dû nous battre et rester unis. En face, ils jouaient bien avec le ballon. C'était éprouvant en défense, vous savez, quand on essaye de presser, de récupérer le ballon. Mais je pense que nous nous sommes créés beaucoup d'occasions. Nous étions bons à la fois offensivement et défensivement aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous avons gagné ce match.
Alors, est-ce que ce match était difficile, mais intéressant et voire encourageant avant que vous ne vous repreniez La tête dans les mains, Salim.
Non, mais il y a plusieurs enseignements à l'issue de cette partie. Donc la Roumanie, qui est une équipe qui ne jouera pas l'Euro, faut-il le rappeler.
Oui, elle avait joué le match d'ouverture en 2016 face à la France.
Absolument.
On s'était retrouvé en Roumanie en reportage et ça avait été passionnant. Mais effectivement, on avait fait le constat d'un football décadent.
Marcus Rashford l'a dit, offensivement, il y a eu des belles choses. Il y a eu vraiment des offensives intéressantes avec lui, avec Jack Grealish, qui était de retour titulaire aussi. Et Grealish, possiblement, il sera titulaire, lui, dans le 11 type de cette équipe d'Angleterre.
C'est hyper important. Continue.
Ça va jouer, on en parlera dans un instant, voilà. Mais ça va jouer à pas grand-chose en tout cas. Donc, quand on voit ce genre de relation, on a bon espoir, offensivement parlant. En revanche, défensivement, hier, il y a eu beaucoup d'occasions concédées encore. Alors, la chose positive, c'est de se dire que parmi les joueurs qui ont joué hier, la plupart ne seront pas là.
Ils seront pas
soit
là.
Parce qu'ils sont pas dans les 11 titulaires, soit parce qu'ils ne seront même pas dans les 26, en fait. Puisque, il faut rappeler une chose, Gareth Southgate a fait, sur les deux matchs de préparation, fait jouer beaucoup de joueurs qui ne seront même pas là parce qu'en fait il n'en a pas assez. Je m'explique. Entre ceux qui ont joué les finales de Coupe d'Europe, il y en a 12 en l'occurrence qui étaient impliqués, qui sont arrivés en retard, qui donc n'étaient pas à 100% pour le premier match, donc ils ne pouvaient pas jouer. Sancho qui était malade lors du match de préparation numéro 1, pas là aussi, donc il a dû faire tourner. Hier encore, il a dû faire tourner.
Ce qui est inquiétant. Maguire convalescent.
Exactement, toujours convalescent.
Le pied de la défense.
Ce qui est au final effrayant, c'est de se dire que sur les deux matchs de préparation, c'est un mot important, préparation, ça veut dire que vous êtes là non, pour affiner les dernières combinaisons, etc. Les deux matchs, il n'a jamais pu aligner le 11 potentiel type qui va démarrer donc face à la Croatie dans quelques jours.
Ça va nous donner une belle surprise.
Mais il n'a pas fait exprès, donc vous écoutez Salim.
Comment
il n'a pas fait exprès.
Oui, il n'a pas pu.
Il peut pas.
D'ailleurs, ce qui est assez effrayant aussi, mais presque rassurant, c'est de se dire que par rapport à 2018, où l'Angleterre était allée loin dans la compétition en demi-finale de la Coupe du Monde à l'époque, vous avez des équipes anglaises, des clubs, qui eux n'étaient pas allés loin en Coupe d'Europe. Conséquence, l'équipe d'Angleterre, Gareth Southgate, avait récupéré ses joueurs très tôt, et au final avait pu faire une belle compétition à l'époque.
En Coupe du
Monde. Là, le problème c'est que trois des quatre clubs finalistes étaient anglais. Allés en finale, donc il les a récupérés tard, donc il n'a pas pu faire la prépa idoine. Est-ce à dire que l'Angleterre ira pas loin? Ça, je vous laisse mettre de vos pensées.
Hervé Penaud.
Sur le papier, c'est quand même comme d'habitude, parce que c'est toujours l'équipe qu'on voit gros comme une maison, et puis qui s'écroule assez vite.
Il y a des beaux petits noms, comme une cabane au fond du jardin. Et on pense à Phil Foden, qui représente un peu et la jeunesse et le talent.
On est au cœur de l'interrogation la forme physique des joueurs, parce qu'on sait pas du tout dans quel état, parce qu'on sait déjà que le champion d'Angleterre est le plus dur, physiquement, c'est éprouvant. Il va falloir se remettre sur une nouvelle préparation.
C'est encore plus cette saison
parce qu'il n'y a pas eu de vacances. Encore plus cette saison parce qu'il y a trois équipes qui vont en finale dans les différentes finales. Donc ça veut dire qu'on ne sait pas du tout dans quel état ils sont. Sinon, sur le papier, si on prend le papier, même défensivement, alors Maguire, bon, je ne suis pas un fan absolu, mais enfin, ça peut tenir la route. Chilwell, ça tient la route. Stones, il a quand même fait une belle saison. Trippier, en Espagne, il a fait une super saison. C'est-à-dire qu'il y a du monde à peu près partout. On parlait des jeunes, les Mount, les etc.
Foden,
plus des joueurs un peu plus expérimentés devant. Harry Kane, qui fait une saison hors norme, c'est-à-dire il marque des buts et il donne des passes décisives.
Il prie pour qu'il se blesse pas.
Ah oui, ça vaut mieux, parce que là, vous avez le facteur X quasiment de votre équipe.
Hein.
Entre Rashford, Sterling est capable de trucs incroyables. C'est-à-dire que sur le papier, individuellement, vous avez encore des joueurs de très haut niveau. Maintenant, est-ce qu'ils vont collectivement être capables de trouver quelque chose? L'interrogation avec les Anglais est toujours là. Maintenant, le fait de jouer à domicile, c'est quand même un sacré plus.
Devant du public aussi. Ben, ouais. Les matchs de l'Euro se jouent quand même devant un peu de public. Juste, je précise une chose sur ces matchs de préparation, sur ces deux rencontres. Southgate, on connaît son système. J'insiste là-dessus. Ce sera normalement, enfin, logiquement, un 3-4-3.
Avec t'es sûr qu'il va jouer à 3 derrière?
Justement. Normalement, c'est toujours ça, Southgate.
Normalement.
Lors de l'Euro.
Mais c'est pas les derniers matchs. Hein.
Lors de la Ligue des Nations, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, c'est ce qu'il a fait. Sauf que sur les deux derniers matchs, il ne l'a pas fait. Il a joué avec une défense à 4, etc. Sauf que je viens de le dire il y a quelques instants, il l'a fait avec des joueurs qui, pour certains, ne seront même pas là. Hier, par exemple, dans la défense à 4, sur les 4 qui étaient dans le back 4, 2 ne seront même pas dans la liste des 26. Donc, c'est dire qu'il a, dans ses matchs de préparation, tenté des choses qui n'ont jamais été faits avec les joueurs actuels. C'est ça qui est invraisemblable.
Shérif?
Il y a deux difficultés. La première difficulté, c'est quels joueurs seront entièrement valides pour constituer le 11 type. Un gros problème. Et la deuxième, c'est l'animation offensive. C'est pour ça qu'on parlait de Grealish tout à l'heure. Est-ce qu'on va avoir un milieu travailleur avec des Henderson et tout ça, qui lui aussi est un peu convalescent, enfin.
Totalement.
Ou alors, ça va être un jeu un peu plus débridé avec des joueurs un peu plus techniques, genre Foden, Grealish, qui jouent dans les petits espaces, Quel sera le rôle de Ken? Est-ce qu'il sera pur numéro 9 avec deux ailiers qui courent très vite derrière? Ou alors il va reprendre un peu son registre qu'il a à Tottenham, c'est-à-dire jouer sur deux registres en 9,5? On le sait pas encore. Alors tout ça sur le papier, ça donne beaucoup de possibilités. Il y a du talent. Il y a beaucoup de spécialistes anglais qui disent qu'en fait, cette équipe-là, elle sera plus au rendez-vous dans 2 ans pour la Coupe du Monde.
Exactement.
Elle arrivera à maturité. Là, il y a beaucoup trop d'incertitudes sur le 11 type. Sur l'animation contexte, offensive et sur l'état de forme et puis sur, comme l'a dit Salim, le fait qu'ils n'ont pas beaucoup joué ensemble.
Alors,
en tout cas, l'interrogation.
La chance est de... Ils vont jouer ensemble pendant l'Euro. Tout est là. C'est-à-dire, on va voir s'ils arrivent à se mettre dans un rythme ensemble.
Dans un groupe dit prenable, puisque le groupe D, il rencontre la Croatie, on va en parler dans quelques instants, mais une Croatie évidemment voilà, finaliste de la Coupe du Monde, et il y a beaucoup de finalistes encore dans cette équipe, mais justement, ils ont 50 plus.
Ils ont 3 ans de plus,
ans de plus, pardon.
Il y a beaucoup de 30 ans.
Et puis, ils joueront donc leur premier match dimanche prochain, et il y aura ensuite l'Écosse et la République tchèque.
Et la République tchèque, ça fait très peur à l'Angleterre. Je rappelle qu'en groupe, en phase éliminatoire de l'Euro, la République tchèque a battu l'Angleterre. 2-1 avec Souček, Thomas Souček, vous l'avez dit, Koufal, des joueurs de West Ham. Oui, on arrive toujours à placer West Ham.
Ouais, mais sur le papier quand même, c'est un groupe, sur le papier évidemment, parce qu'après on ne sait pas ce qui va se passer, qui est quand même dans leur corde. Parce que si à domicile, ils ne sortent pas d'un groupe comme ça, là, ce sera un petit peu désespérant.
Vous allez voir si l'Écosse ne va pas sortir le match de sa vie contre les Anglais à Wembley.
Ouais, mais à un moment, le niveau te rattrape quand
avec,
même.
Avec un fond de Brexit par
jusqu'au
derrière.
Jusqu'au bout, non, mais...
Alors, les Diables Rouges, eh bien eux, ils ont affronté justement cette Croatie.
Il botte le coup de coin effectivement, de manière différente. Livakovic encore une fois qui rate sa sortie. Tielemans qui frappe comme il aime le faire de l'extérieur du rectangle. Mertens le centre, second poteau. Vertonghen de Neyer. Et Lukaku, c'est goal. C'est goal, le voilà le but. Romelu Lukaku, 60e but en équipe nationale.
Le buteur champion d'Italie, hein, Romelu Lukaku, a donc offert hier à l'ambitieuse Belgique une nouvelle victoire et inscrit son 60e but en 93 sélections. Le solide gaillard, un pilier qui rassure dans une équipe pour l'instant décimée. Beaucoup d'absences, c'est pour ça qu'hier ils n'étaient pas sur le terrain et que le match d'avant c'était aussi mi-figue et raisin.
Les autres étaient là.
Mais même si vous sortez en boîte, il rassure. Hein. Pas de souci, vous le prenez comme videur en même temps. Vous n'êtes pas ennuyé. Hein.
Il a la stature. Kevin De Bruyne est toujours blessé. On s'en souvient, on en a parlé à cause de la finale de la Ligue des Champions. Witzel, lui aussi, avec Dortmund. Et puis, apparemment, Eden Hazard, toujours absent. Alors, a-t-elle gagné cette équipe en maturité? Cette fameuse équipe éliminée par la France en demi-finale en Russie en 2018 et qui gardait un peu un chien de sa chienne aux critiques. Eh bien, réponse du buteur et leader, Romelu Lukaku.
Je pense qu'on est plus fort. Je pense pas moi, mais le collectif est devenu beaucoup plus fort. Je pense que, voilà, on montre la maturité. Avant, on pensait que de gagner les matchs en jouant du beau football, mais maintenant, on est beaucoup plus agressif et on sait qu'il y aurait des moments dans le match où on doit défendre. Et je pense que, voilà, ça s'est passé à la fin. Et après, Thibaut, il a sûrement eu un arrêt à faire et il l'a fait. Donc c'est en gagnant des matchs comme ça, ça montre qu'on a fait un pas en plus.
Faire un pas en plus. Alors Hervé, il y a une petite phrase là qui passe pas inaperçue, c'est avant on jouait du beau football, maintenant
on va faire comme la France. C'était ça l'idée. Hein.
Oui, parce le message. Tous, voilà les déclarations de Thibaut Courtois. Est-ce que vous trouvez que cette équipe est devenue plus forte?
Non, il y a trop d'interrogations sur cette équipe de Belgique. Malheureusement, là c'est pareil, c'est lié à leurs blessures. Quand vous avez Hazard, qui est quand même le numéro un de l'équipe. Il y a aucun
qui
doute
était,
là-dessus.
Parce que
qui était,
c'est lui qui a le plus de stats. Mais il est pas décisif.
De manière globale, c'est le numéro un de l'équipe, plus que De Bruyne encore. Donc, il a pas joué cette année.
On peut passer
il a 19%
au passé, voilà,
de temps de jeu
ça.
Ou 20% de temps de jeu durant l'année. Donc, on ne sait pas du tout dans quel état physique il est. De Bruyne, il finit la finale de la Ligue des Champions. Il se fait casser, genre, sous l'œil.
Deux fractures.
Il a juste rejoint le groupe.
Deux fractures sur le visage.
Il jouera pas le premier match. Avec quelle interrogation? Est-ce qu'il aura peur d'aller au contact? Il y a plein de choses, on ne sait pas. Witzel, qui est l'homme qui était un peu l'équilibre de l'équipe. Celui qui est capable d'équilibrer au milieu de terrain cette équipe-là. Avec Tielemans, en plus, qui a pris du poids. Malheureusement, lui, il a été blessé en début d'année, en plus, talon d'Achille. Donc là, on ne sait pas du tout dans quel état physique il sera. Donc vous avez les trois des principaux joueurs de cette équipe. On ne sait pas du tout dans quel état ils sont. Donc aujourd'hui, plus des défenseurs qui ont un peu vieilli, qui certains sont partis dans des championnats de deuxième zone, on va dire.
Denayer ne fait pas une belle saison.
Denayer ne fait pas une énorme saison.
À Lyon, oui.
Pas une énorme saison à Lyon. Donc ça veut dire quand même qu'il y a beaucoup d'interrogations et quelques certitudes. Les certitudes, elles proviennent de devant et des derrière. Vous avez Lukaku qui est monstrueux, Martens, etc. C'est bon. Thorgan Hazard, c'est vraiment mis dans la peau d'un possible titulaire. Il est fort possible qu'il débute la saison. Et vous avez un gardien de très haut niveau.
Ouais. Donc ça est devenu de très haut niveau.
Bon, enfin, qui est redevenu. C'était surtout la saison dernière, pas à la Coupe du Monde, mais après il avait eu un moment, c'était perdu à ses paroles risquées. Voilà.
Beaucoup d'interrogations, on est un peu comme les Anglais, un peu comme les Néerlandais.
Shérif.
Je suis d'accord avec Hervé, c'est vraiment les interrogations autour des blessures des joueurs 100%.
Alors,
non mais toutes les équipes,
la Belgique,
toutes les équipes. Alors,
sauf la France.
Un point fort. Alors, un point fort, c'est que la Belgique fait partie des rares équipes qui a une vraie identité de jeu. C'est pas le cas des autres équipes, comme l'Angleterre, c'est pas encore au point. C'est une des rares équipes qui peut se baser sur un système de jeu qui fait que des nouveaux entrants, comme Thorgan Hazard, ou alors de Dunkerque, qui va sûrement remplacer Mitchell, ils s'incluent tout de suite dans le collectif. Donc ça, c'est un point positif. Non, je suis pas d'accord. Mais là, c'était un message qu'il envoyait un peu à la concurrence.
Évidemment.
Non, moi, je les ai vus contre le Pays de Galles. Bon, ils ont été menés 1-0, mais après, ils en ont marqué 3 en comptant les occasions. Ils ont été battus de justesse par l'Angleterre, c'est ça? Ouais, j'avais vu aussi. Il y a un potentiel offensif, il y a un fond de jeu. Et puis, on est tous, il y a toutes ces interrogations. Maintenant, pour la Belgique, c'est le moment ou jamais de gagner un titre international.
Oui, parce que c'est la génération.
Voilà, c'est cette génération-là. Et en Belgique, il y en a même qui disent qu'en fait, ils ont raté l'occasion en 2018 et que celle-là, elle arrive un peu trop tard. Moi, je pense
21.
Pas, l'équipe encore là.
Ouais, mais c'était pas en 2019.
Parce qu'en fait, la Belgique... Il reste 2022,
ouais,
c'est pas loin. Hein.
Parce que la Belgique, c'est le dernier grand pays de football en Europe qui a jamais gagné de titre.
Ouais.
Tout le monde a gagné, même le Portugal a gagné 1 euro, le Danemark a gagné 1 euro, et la Belgique n'a rien gagné.
Reste-t-il parmi les favoris, Salim?
Oui.
Pour moi, oui.
C'est Diable Rouge.
Clairement, on évoquait l'Angleterre il y a quelques instants. J'ai perso un poil plus de certitude avec la Belgique qu'avec l'Angleterre aujourd'hui, à travers certaines individualités. En ce moment, il est tellement au-dessus. Et au-delà du fond de jeu aussi, hier face à la Croatie, alors la Croatie vieillissante et tout ce qu'on veut, la Croatie, sa première occasion, c'est à la 80e minute par Petkovic. Elle arrive à inhiber, à gêner vraiment les équipes adverses pour qu'elles se procurent des occasions. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très fort quand même.
La Belgique dans le groupe B avec en premier match, eh bien la Russie, ça sera samedi soir prochain.
Saint-Pétersbourg.
Lendemain.
La Belgique qui avait battu 2 fois la Russie en éliminatoire
Saint-Pétersbourg, attention.
La Russie.
Ils ont joué à domicile quand même la Coupe du Monde.
C'est pas super.
On parlait des favoris et Hervé vous disiez, il y a que les Bleus. Eh bien, justement, ils joueront eux leur dernier match de préparation. Ça sera contre la Bulgarie demain soir, avec l'entrée en jeu. C'est prévu pour Munich le mardi 15. Donc là, c'est le dernier galop d'essai pour Didier Deschamps et ses joueurs. Est-ce qu'ils sont trop favoris?
Les Grands Bleus, ils ont un grand problème, c'est que c'est les favoris de l'Euro, parce que ils ont une équipe très complète, certainement la plus complète de toutes, plus de grandes individualités. Après, sur la carte, c'est une chose, puis après, il faut jouer les matchs, et puis il faut les gagner. Et là, ça se complique.
Le grand Michel Platini. Alors, il sait de quoi il te parle, hein. Il a remporté l'Euro 84, c'est le premier titre
lui tout seul
international des Bleus, bien sûr que non. Mais en tout cas,
aussi.
Il était
peu
aidé. Et puis, Giresse, et puis ces joueurs qu'on a idolâtrés quand on était jeune. Alors, veut-il prévenir les Bleus que le statut de favori est lourd à porter et presque un handicap, Hervé?
Oh, mais ils le savent, vous savez, les joueurs, j'ai entendu Paul Pogba qui a essayé de remettre d'ailleurs tout le monde un petit peu dans le droit chemin, en expliquant, faut pas être trop sûr de soi, parce que c'est vrai que tous les joueurs s'étaient présentés lors des points presse, différents points presse, en expliquant qu'ils étaient favoris, mais aujourd'hui c'est difficile de pas coller ce qualificatif à l'équipe. J'ai entendu que José Mourinho a fait une colonne dans un journal anglais pour expliquer que la France était largement favorite et que tout autre résultat finalement qu'une victoire serait un échec. Alors ça va, c'est allé un peu vite en besogne parce qu'un match de football, ça se joue parfois à rien. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, l'équipe de France, il y a du monde partout, toutes les lignes. Devant, c'est quasiment ce qui se fait de mieux au monde. Au milieu de terrain, vous avez quand même N'Golo Kanté. Je parle même pas des autres, hein, mais rien que lui qui a été élu meilleur joueur de la finale, meilleur joueur sur les 2 matchs et demi-finale de Ligue des Champions. Et derrière, vous avez du monde qui joue dans que des grands clubs, que ce soit Bayern, que ce soit Barcelone.
Arrête Hervé, je sens venir l'accident industriel.
Donc effectivement, il peut y avoir accident industriel parce que c'est la vie du football.
On se souvient tous de 2002
parce que la France est déjà arrivée.
Mais on a cette sensation quand même que ce sont des joueurs qui n'ont pas peur d'assumer ce destin-là, ce destin de favori.
Je vais aller plus loin que toi. L'équipe de France, la pression, ils l'avaient en Coupe du Monde 2018. Ils l'ont très bien géré. Il y a eu un grand rendez-vous, à mon avis, avec l'équipe de France quand ils sont allés jouer à Lisbonne contre une grosse équipe du Portugal. On les attendait, la pression de zéro. Ils sont allés gagner, ils ont écrasé le Portugal. 1-0, ça suffit, hein. ils ont géré.
Mais effectivement, dans le match et dans le jeu, ils ont été impressionnants.
Non, mais ces jeunes-là, c'est impressionnant. Parce qu'on a l'impression que c'est de l'eau, ça coule sur eux.
C'est tout.
C'est-à-dire que Kylian Mbappé, à l'arrière, il dispute une finale de Coupe du Monde ou un match en bas de chez lui, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il a la même envie de marquer l'histoire. Oui, abondi, effectivement. Et après, c'est pareil pour Dembélé, c'est pareil pour. Et puis vous avez Benzema qui est revenu.
Après, c'est une équipe
On en a beaucoup parlé sur
J'imagine.
Et dans Radio Foot.
Là, je parlais juste dans notre mini-débat.
Après, c'est une équipe qui concède de temps en temps des occasions. On l'a vu contre le Pays de Galles, on l'a vu contre l'Ukraine. Donc, un accident peut arriver, être mené. Ou prendre un but, après, c'est un scénario qui change.
Salim, les vainqueurs de la Ligue des Champions, les Blues de Chelsea, à savoir N'Golo Kanté et Giroud, sont revenus.
Et Kurt Zouma aussi.
Et Kurt Zouma, bien sûr. Ils sont revenus, ils sont là, ils sont tous là. En tout cas, ils sont à Clairefontaine. Est-ce que Didier Deschamps, pour ce dernier match, avant le coup d'envoi dans la compétition et face à l'Allemagne, c'est pas simple, même si on y reviendra sur l'Allemagne, il y a aussi beaucoup de questions autour de cette équipe. Est-ce que normalement, il va mettre le 11 qu'on verra prioritairement durant la compétition sur ce dernier match, ou alors il essaye de semer quelques doutes?
Honnêtement, je pense qu'objectivement, autour de cette table, que tous les auditeurs visualisent à peu près le 11, alors sauf peut-être un poste potentiel, et d'ailleurs peut-être
si
au milieu
de se blesse, quoi.
Voilà, exactement.
Ou s'ils aujourd'hui, ont le coronavirus.
Aujourd'hui, j'ose croire qu'on connaît à peu près tous le même le 11, en tout cas avec notamment cette ligne offensive, les trois joueurs offensifs. Donc,
Salim. Comment? Le système. Quel système?
C'est peut-être là où est-ce qu'on place Benzema précisément.
Alors, 4-4 de losange ou 4-2-3?
D'accord. Bah,
si vraiment ils rejouent encore en 4-4 de losange demain, c'est qu'ils vont partir comme ça. C'est... Mais mettons, moi, quand j'ai vu le premier match,
donc, Kanté tout seul en sentinelle en 6 devant la défense.
Moi, j'ai pas eu l'impression non plus qu'ils aient joué spécialement comme ça lors du premier match.
Parce que Kanté était pas là.
Ils ont joué. Non, Kanté était pas là. C'était Tolisso
qui avait.
Oui, Tolisso était à sa place. Là, ça va être Kanté. Moi, c'est pas un système que j'adore mais c'est personnel. Mais enfin, si Deschamps pense qu'on peut l'utiliser, c'est qu'à mon avis, il y a des chances qu'on puisse l'utiliser.
Mais ce qui est sûr, c'est qu'à une semaine du match, je vois mal Didier Deschamps mettre une équipe bis ou une équipe même A prime. Non, ce serait
un système totalement.
Ce sera l'équipe A dans le système où il sera attendu et on comprendra clairement ce qu'il en sera dans une semaine après.
Avec 6 changements à la mi-temps.
Oui, voilà, c'est ça, c'est pour ça que je dis en début de match. En tout cas, celui qui prend son sort avec philosophie et humour, c'est Olivier Giroud, à qui on prédit le pire à cause du retour de Karim Benzema, dont on a parlé, Hervé. Mais apparemment, lui, il est en mode zen au château. Écoutez-le, Olivier Giroud.
C'est normal que les médias soient enthousiastes quant au retour de Karim, qui est une arme supplémentaire pour l'équipe de France. C'est le jeu, j'ai envie de dire. J'ai aucun problème par rapport à ça, aucune rancune. Ça me fera plaisir de profiter avec lui, peut-être après l'Euro. Si on gagne l'Euro, je l'inviterai sur un circuit de cartes et on se tirera la bourre aux cartes, voilà.
La bourre, alors peut-être en vidéo, à travers la vidéo, ce kart, peu importe.
On parlait de mental, Giroud, qu'est-ce qu'il a pris dans la gueule, enfin dans la figure pendant des années et des années, il a toujours répondu présent.
Il est champion d'Europe en Ligue des Champions.
Il est toujours là.
Et on se souvient de son but contre l'Atlético Madrid, qui a permis la
qualif. Un quadruplé face à Séville en phase de poule. C'est le troisième meilleur buteur de la Ligue des Champions cette année.
Et c'est le meilleur buteur des éliminatoires de l'équipe de France. Donc, il est là.
Il est là, mais... on est obligé de se poser des questions quand même. Parce qu'à force, vous pouvez défier le temps, mais à un moment, ça vous rattrape. Il n'a pas joué quasiment avec Tuchel depuis 5 mois. Alors, il a joué un tout petit peu au début.
L'Atlético,
c'était il y a 3 mois. Et depuis, la rupture aura lieu. Elle aura lieu, on le verra.
Depuis, il n'existe plus. Ouais. Là, il est parti pour être titulaire. Alors, il ne l'était pas non plus, vous me direz, lors de la Coupe du Monde, parce qu'il a repris sa place dès le deuxième match. Mais là, il jouera encore moins, parce qu'il n'a pas mis Deschamps, Mbappé, Benzema et Griezmann pour changer radicalement son idée. Absolument. En mettant un joueur comme Giroud, il pourra peut-être rentrer 10-15 minutes un peu en difficulté sur une fin de match pour un jeu de tête, bien sûr qu'il aura des opportunités, mais je pense quand même que ça sent un peu plus le champ du cygne, parce que j'adorais sa conf de presse, j'ai trouvé qu'il avait une finesse, une forme de recul sur lui-même qui était assez bluffant, mais bon, ça sent quand même un peu plus proche, il est un peu plus proche de la fin que du début, c'est le moins qu'on puisse dire. Maintenant, avec lui,
mais il est là
comme dit Giroud, tout est possible, on a l'impression sur un match, j'ai jamais douté qu'il y serait quand même.
Et ça, c'est très important. On va un petit mot encore sur Giroud, non?
Non, ben on l'observe, on l'attend. Bah, peut-être que demain on le verra quand même entrer quelques minutes, voilà, pour faire plaisir.
Ah oui, exactement, en deuxième mi-temps. Bah oui, et puis qui sait, marquer un but à la
Bulgarie. Il faut lui donner un peu de temps de jeu. Hein.
Exactement.
Ah, parce qu'il va pas d'entrer sur
l'Euro. C'est pas Thomas Tuchel qui va lui en donner, hein, a priori. Ah.
Bon, vu le jeu de Chelsea, on comprend aussi pourquoi.
Bah, il a gagné la coupe avec eux. C'est exactement. Bien, maintenant, c'est il peut partir.
Ramener la coupe à la maison. Ramener la coupe à la maison.
Alors chaque fois, nous
chanteurs.
C'est pas Patrick Juvet, notre Patrick Juvet.
Exactement.
Allez, on continue. On va faire un petit crochet par l'Afrique, ça vous dit, Hervé, avec justement
plaisir.
Votre maillot
oui.
Qui dit tout.
Ah, bah.
Un contretemps autour de la CAN au Cameroun. Un de plus, Hervé.
Oh là là.
La compétition, toujours programmée pour l'instant, pour janvier 2022, devait connaître son organisation plus précise à travers le tirage au sort, la répartition des équipes, dans géographiquement, bien sûr, selon les villes, selon les groupes, et évidemment, des matchs, ça compte, en tout cas, ça compte pour les organisateurs et surtout tous les suiveurs. Mais ce qui était prévu pour le vendredi 25 juin n'aura pas lieu tout de suite. À la demande de la CAF, précisons-le, le COCAN, le comité d'organisation locale, a dû reporter la cérémonie qui devait donc se tenir à Yaoundé dans 15 jours et demi, 3 semaines. Allez, c'était 3 semaines avant. C'est la raison invoquée, le Covid, l'explication officielle du communiqué officiel. Est-ce crédible ?
Pas tellement. Faut pas se mentir, parce que le Covid, ça a pas posé de problème pour organiser le CHAN au Cameroun. Il y a eu des délégations partout, il y avait aucun souci. Non, bon, je me suis laissé dire qu'il y avait d'autres raisons.
Dans la vie au quotidien au Cameroun,
Il y avait aucun problème. Et je pense donc pas que ce soit la raison valable, évidemment. Moi, je me suis laissé dire plutôt que c'était un petit problème de structure, parce que quand vous faites un tirage au sort comme ça, toutes les équipes viennent et après tout de suite vont chercher les points de base, là où vont aller. Et il y a quelques infrastructures qui sont pas complètement terminées, on disait du côté de Bafoussam par exemple, et ça posait un petit problème pour ce type d'organisation. Donc ils se sont dit, on va peut-être laisser encore un mois ou deux. Logiquement, le tirage au sort devrait avoir lieu au mois d'août. Et dans ces cas-là, tout réglé. Et puis là, ça sera un peu plus simple d'enclencher toute la dynamique, parce que la situation Covid changera pas entre août et juin. Faut pas se mentir. Donc c'est évidemment pas la raison principale. Donc c'est plutôt des raisons périphériques.
Alors le problème. Ça veut dire qu'il y a certaines villes hautes qui pourraient ne plus l'être?
Ah non. Je pense qu'il y aura aucun souci. Donc tout sera terminé. Mais bon, il faut que tout soit terminé quand même à temps pour que le tirage au sort ait lieu et que tout le monde puisse aller voir les installations et décider des endroits où ils vont
pouvoir. Pour faire un seul voyage.
Ils vont pas revenir deux mois plus tard. Il y a pas mal de choses à mettre en place. Il faut qu'à Yaoundé tout soit réglé. Il y a pas mal de choses à faire. Mais on va voir un petit peu comment les choses vont évoluer. Mais c'est juste un petit contretemps. Alors, je sais combien il y a un règlement. On disait qu'il fallait que le tirage au sort ait lieu six mois avant le début de la compétition, etc. Enfin, le règlement, depuis quelque temps, il a quand même pris un peu une claque. Donc, c'est pas très, très grave en soi. Le tout, c'est que ce soit super bien organisé. Le CHAN, ça s'était bien passé. Avec des petites choses quand même à régler. Ça, c'était important. Mm-hmm. Ils ont deux mois.
Côté de l'organisation, justement. Enfin, structures et infrastructures.
La CAF va aller s'implanter d'ailleurs là-bas. Elle va mettre un bureau. Pour les derniers mois, pour gérer tout ça. Et c'est important. Et puis après, on aura une CAN magnifique. On l'attend tous, évidemment, au Cameroun.
Mais c'est quand même encore une CAF insaisissable, Hervé. On pense, évidemment, il y a certaines attentes, mais on n'a toujours pas le dernier qualifié de cette compétition. Et notamment, c'est ce fameux match entre Sierra Leone et Bénin. Où, quand, comment
C'est le 14, je crois.
Vous croyez.
Il me semble que c'est...
Mais il n'y a pas encore eu de communication officielle.
Il me semblait que c'était le 14, mais... Alors surtout où déjà, parce que on nous avait expliqué que certains stades n'avaient plus le droit d'être homologués pour des matchs de cette importance.
En tout cas, le stade de Freetown n'est plus homologué par la FIFA pour l'instant.
Donc la logique voudrait que déjà, ça n'ait pas lieu là-bas. Alors on parlait éventuellement de Conakry, qui pourrait être le point
et
de
qui aurait dû être le lieu du match.
Absolument.
Au départ.
Au départ, ça devait être là-bas, et puis finalement, c'était rapatrié sur Freetown. Mais logiquement, ça devrait à première vue, d'après moi, ce qu'on m'a dit, ça devrait avoir lieu à Conakry, même si les Béninois auraient préféré certainement Abidjan, mais enfin bon, Conakry c'est bien aussi, et surtout jouer sur un terrain de football, parce qu'à un moment c'est quand même la moindre des choses, et surtout que la CAF a tellement insisté là-dessus, avoir des infrastructures, que je vois pas comment on peut jouer aujourd'hui en Sierra Leone.
Oui, et puis cette histoire de test anti-Covid,
c'était tellement ridicule.
Mais on n'a jamais eu ni d'explication, ni de sanctions, ni rien. Et
le problème de l'histoire des sanctions, c'est que la fédération, même Sierra Leone, s'est retranchée derrière les médecins locaux. On disait, on n'a rien à voir là-dedans, on nous donne des résultats de tests. Alors bien sûr, on n'est pas né de la dernière pluie non plus, on n'est pas naïf, on sait bien ce qui a pu se tramer derrière tout ça, mais il n'empêche que vous avez toujours la possibilité de vous défendre sur ce plan-là, parce que tant que vous n'avez pas les preuves que tout ça, ça a été organisé par les instances du football sierra-léonais, ben, vous êtes comme tout le monde, hein, vous subodorez, vous supposez, vous êtes quasiment sûr, mais malheureusement, vous n'avez pas
vous
de problème.
Vous ne pouvez pas affirmer à 100%, non.
On attend donc les suites de ce feuilleton pour, eh bien, notamment les écureuils qui continuent à se préparer.
Oui, qui a un match amical, là encore.
Exactement. Mais... il y a pas mal de matchs amicaux du côté de l'Afrique en
absolument.
Ce moment. Absolument. On continue, on va parler de championne.
C'est pour tous les Parisiens. Toutes les Parisiennes.
Une véritable prouesse, les filles du Paris Saint-Germain, contrairement aux garçons, hein, on le rappelle, sont championnes de France. Prouesse car elles ont décroché le titre. Alors c'était seulement dans le dernier match, il leur fallait gagner. Elles ont battu Dijon sur le score de 3-0 et surtout elles ont détrôné l'Olympique Lyonnais qui venait d'aligner 14 titres consécutifs. Exceptionnel, même si ce dernier match, il y avait beaucoup d'absentes, et d'ailleurs ça a été un problème récurrent tout au long de la saison. Marie-Antoinette Katoto, par exemple, n'était pas sur la pelouse, hein, blessée. Est-ce que c'était un aboutissement? Elle gagne avec un point d'avance sur l'équipe poursuivante, c'est-à-dire c'était un peu comme Lille et le PSG, justement, il fallait pas perdre, elles n'ont pas perdu, et les Lyonnaises non plus. C'est un beau couronnement pour vous, une belle récompense, Salim.
Oui, le PSG qui... presque on dirait a obtenu son titre entre guillemets sur le match précédent. C'était le fameux match en retard face à Lyon. C'était le match à ne pas perdre parce que si les Parisiennes l'avaient perdu, eh bien à ce moment-là les Lyonnaises passaient devant à une journée de la fin et donc Lyon probablement obtenait ce titre de
Il
nouveau.
Il y avait eu un 0-0. Hein.
Exactement. Le PSG avait réussi l'essentiel, tenir à Lyon et ne serait-ce que ça. De faire ce genre de résultat à l'aller, il y avait eu 1-0 pour le PSG et donc ce 0-0 sur deux matchs, le PSG n'a pas pris de but en Ligue des Champions. Le PSG a éliminé l'Olympique Lyonnais aussi en Ligue des Champions cette saison. Enfin, le PSG cette année est clairement la meilleure équipe devant Lyon, la meilleure équipe française. Donc oui, au final, c'est mérité de voir le PSG obtenir ce titre.
Parmi les Parisiennes en joie sur la pelouse du stade Jean Bouin, à l'ombre du Parc des Princes, hein, eh bien une des actrices majeures de cette campagne victorieuse, présente au club depuis 5 ans, la milieu de terrain brésilienne. Elle était blessée, elle avait reçu un coup de tête lors d'un match. Mais Formiga disputait son dernier match sous le maillot du Paris Saint-Germain. Et elle est au micro de notre confrère de la rédaction brésilienne, El Suramalio.
J'ai tellement rêvé de ce titre, et pas seulement moi, toutes les filles, on en a tellement rêvé. Je tenais à laisser quelque chose de positif à celles qui resteront dans l'équipe. J'espère qu'elles continueront ce dur travail, comme nous qui nous sommes battus jusqu'au bout. Et de loin, je continuerai à suivre ce club que je remercie pour m'avoir recruté et m'avoir donné cette chance de jouer pour finalement remporter ce titre.
Et oui, Chego, c'est Titulo. Et justement, écoutez l'hommage de son entraîneur, Olivier Echouafny, qui rend hommage à cette grande championne de 43 ans.
C'est un privilège d'avoir été son coach, un véritable honneur. Elle est incroyable, incroyable, c'est une vraie légende, je voulais absolument la faire rentrer, ça n'a pas été simple non plus pour elle depuis 4 semaines, elle mérite tellement, c'est une vraie légende. Il fallait qu'elle parte par la grande porte, elle va partir par la grande porte parce qu'elle le mérite tellement.
On connaîtra bientôt hein, le club où elle va jouer, Formiga, à 43 ans. Alors c'est Miraildes Maciel Mota.
On dit à Formiga. Hein.
Oui, mais on connaît tous Edson Arantes da Nascimento. Tous les Brésiliens ont des noms à tiroir.
Je dirais quelque chose. Formiga. C'était Formiga. Formiga.
Vous savez ce que c'est une Formiga?
Non.
Hervé, et c'est pour ça son surnom. C'est une fourmi.
Voilà.
Ah, en fait.
D'accord.
Et c'est son côté travailleur côté travailleuse.
Moi, c'est mon côté chanteur. Formiga.
Elle est bayanaise et elle a donc choisi de rentrer au Brésil apparemment du côté de Sao Paulo.
C'est ça, mais elle va jouer donc encore, vous avez raison de signaler, surtout à 43 ans, donc peut-être 45, 44, 45 ans, elle va continuer de jouer. elle a été impressionnante cette saison. Et
elle ira jusqu'à la retraite à 60 ans.
Surtout à cet âge-là.
Peut-être
elle
plus,
a,
hein, d'après ce qu'on sait.
Elle a joué quasiment tous les
mais
matchs.
Oui,
c'est ça
oui.
qui est impressionnant. Il n'y a pas eu de rotation à son poste. Et c'est ça qui est épatant.
Elle rappelle une autre grande joueuse brésilienne, Chérif, c'est Marta, la
Marta.
Fameuse, hein, qui, elle, alignait les ballons d'or féminins. À l'époque, ça ne s'appelait pas ballon d'or, mais c'est qui vrai. A toujours été distinguée, qui est restée si longtemps. D'ailleurs, Formiga, elle va jouer les JO avec le Brésil au mois d'août. Hein.
Oui, ouais, on attend toujours un titre majeur, il me semble, avec la grande la
filles,
sélection
oui,
féminine. Ouais.
Mm.
C'est un peu le drame de
Soudan. Après les garçons, c'est ouais, 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 des filles. Oui.
Non, mais bien sûr, longévité exemplaire et puis titre mérité pour le PSG.
Hervé, est-ce que ça veut dire que la fin de cette domination totale des Lyonnaises, est-ce que ça veut dire quelque chose?
Ah oui, ça veut dire quelque chose. Parce que on tournait autour hein, depuis quelques... Là, ça fait 2-3 ans déjà, on sentait que la concurrence était...
Elles ont été
championnes d'Europe, les Lyonnaises. Et puis elles avaient même éliminé les Parisiennes. Mais on sentait que ça commençait à être de plus en plus fin.
Pourquoi l'avance. Parce qu'elles vieillissent, genre Wendy Renard,
la difficulté, c'est que vous avez les stars de cette équipe-là. Wendy Renard, elle commence à prendre de l'âge. Amandine Henry aussi a pris de l'âge. Il y a quelques joueuses comme ça qui seront plus en difficulté. Et puis quand vous avez tellement gagné, qu'à un moment ça s'arrête, c'est inévitable. Et il y a eu des changements d'entraîneurs parce qu'on pensait chaque fois que c'était lié aux entraîneurs. Hein. Tous les ans,
elles ont changé en fin de saison.
Elles ont encore changé. Ça n'a pas empêché de ne pas pouvoir gagner le match qu'il fallait contre le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire qu'à un moment, je pense que c'est surtout lié à l'effectif. Il va falloir régénérer un peu cet effectif. Il le fait de manière assez régulière, quand même, Jean-Michel Aulas, en essayant de ramener des joueuses à droite à gauche. Mais il va falloir retrouver.
Il a piqué deux joueuses.
La gardienne, Christiane
Endler,
parce que Boadi va partir aux États-Unis.
Oui. Et puis on a aussi Perle Moroni qui part là-bas. Et puis ça, d'ailleurs, c'est vraiment le PSG se fait piller là.
Vas-y. Juste quand on évoquait le côté régénérer cet effectif, c'est pour cette raison aussi que Sonia Bonpastor est arrivée sur le banc à la place de Jean-Luc Vasseur. Sonia Bonpastor qui a un regard particulier sur le centre d'entraînement de Lyon, parce que c'est à partir de là, c'est à partir de là aussi que Jean-Michel Aulas veut régénérer en faisant remonter des jeunes que Lyon faisait un peu moins ces dernières années en allant acheter évidemment soit au PSG comme elle a pu le faire ou dans d'autres équipes
aux États-Unis,
à Montpellier,
aux États-Unis,
d'autres joueuses dans les grandes équipes européennes ou donc aux États-Unis. Mais là pour le coup, ça va potentiellement changer des prochaines années. On ira toujours chercher une ou deux grosses stars, mais maintenant on veut régénérer à partir du centre de formation, une autre manière de faire. Donc est-ce que surtout à Lyon on va être patient, parce que c'est bien beau de les faire monter, mais ces jeunes-là qui ont du talent, va falloir qu'elles aient du talent tout de suite et qu'elles le montent de suite.
Exactement.
Et donc que Jean-Michel Aulas soit patient avec cela, ça va pas être évident aussi.
Non mais le truc, il y a deux échecs lyonnais cette année en Coupe d'Europe et en Championnat de France. En Coupe d'Europe, de toute façon, on sait que là maintenant, il y a une montée en puissance des clubs anglais. Et puis d'autres pays qui commencent vraiment à mettre des sections.
Le Barça notamment, hein,
on parle de Chelsea,
le Real,
l'Atlético Madrid avec Zaratsout.
C'est en train de monter. Il va y avoir une sacrée concurrence maintenant. Plus les sections féminines. On parle du Real Madrid, Manchester United. C'est pas pour tout de suite, mais c'est en train de monter. Mm. Et la deuxième en
ça,
France.
Ça c'est la FIFA. Hein.
Moi, il me semble que derrière le succès du PSG, c'est la montée aussi en puissance du formidable réservoir féminin d'Île-de-France. Personnellement, ces derniers temps, ça m'est arrivé de voir des entraînements des filles. Je peux vous dire que ce qui arrive, normalement, si c'est bien amené au bout, les joueuses actuelles qu'on voit un peu en France, que ce soit à Lyon, les joueurs françaises, hein, que ce soit à Lyon, à Paris, elles vont très très vite être débordées par la nouvelle génération montante.
Il y a du renouvellement. Ça.
Il y a, non,
déjà
à la fois du renouvellement et il y a une hausse de la qualité technique et individuelle des joueurs. Et vous allez le voir, d'ici 2-3 ans, il va y avoir un coup de balai dans le football français.
Ça sera aussi sans doute intéressant parce qu'il y a 12 clubs, mais c'est vrai qu'il y a des différences énormes entre les équipes, entre la première et la dernière. Et là, par exemple, Lyon qui devait gagner a gagné 8-0. Donc il y a des moments, regarder des matchs pour savoir... Alors, on voit des buts, hein, mais c'est vrai que...
Ils ont pris tellement d'avance.
Ça, c'est un vrai souci quand même du football féminin. Hein. C'est la différence de niveau entre les grosses équipes.
Énorme. Par pays, il y a 2-3 clubs qui mise sur ça et qui effectivement.
C'est pour ça qu'il y avait les fameuses histoires du Super League qu'avec des gros clubs. Ça n'a pas tout à fait le même sens quoi, dans le football masculin.
Évidemment.
Bien sûr.
Évidemment. Et ça serait complètement différent. C'est la fin de ce Radio Foot.
Déjà,
je crois pas.
Déjà. Et compte régressif d'ici le début de l'Euro, puisque ça sera vendredi.
Moins 4.
Exactement. Merci à tous de nous avoir suivis et on vous dit à demain.
Sept milliards de voisins.